parole du jour avec le père Daniel Rambure.
Bonjour à tous. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Clément de Rome, que nous fêtons, parce que, après deux papes qui ont succédé à Pierre, qui n'étaient pas de grande envergure, c'est vraiment Clément de Rome qui a été le premier pape, vraiment, à organiser et à être le primat de l'Église. Alors, voilà, Clément de Rome, c'est le successeur, vraiment, le troisième successeur de Pierre, après Laïc et Anaclet. Sur sa vie, le témoignage est important. C'est celui de l'évêque Irénée, évêque de Lyon. On pense qu'il a été pape de 90 à 202. Alors, je voudrais vous redire un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un conflit dans l'église de Corinthe. Voilà. Les gens ne s'entendaient plus, les prêtres étaient mis dehors, etc. Il y avait des conflits. Alors, c'est le pape Clément qui va réagir et qui va écrire une très grande lettre, une très belle lettre, devant ces graves problèmes que traversait l'église de Corinthe. Alors, je vous lis d'abord ce que saint Irénée écrivait. Sous Clément, un conflit important étant apparu parmi les frères de Corinthe, l'église de Rome envoya aux Corinthiens une lettre importante pour qu'ils se réconcilient dans la paix, qu'ils renouvellent dans leur foi et annoncent la tradition qu'ils avaient reçue des apôtres depuis peu de temps. Bon, voilà ce qu'écrivait Irénée. Et nous pourrions dire que cette lettre constitue une remise, un premier exercice du primat romain après la mort de Pierre. Alors, l'occasion immédiate de la lettre donne à l'évêque de Rome la possibilité d'une ample intervention sur l'identité de l'Église. Voilà, Clément va avoir le génie de ne pas seulement essayer de régler le problème concret, mais va aller beaucoup plus loin. Mais qu'est-ce que c'est que l'Église ? Alors, le motif doit être recherché, le motif des conflits doivent être recherchés dans l'affaiblissement de la charité, dit le pape Clément, et d'autres vertus chrétiennes indispensables. C'est pourquoi il rappelle les fidèles à l'humilité, à l'amour fraternel, deux vertus véritablement constitutives de l'existence dans l'Église. Et puis, il va élargir sa lettre. Il va faire une nette distinction. Il va d'abord refuser qu'il y ait une distinction entre les laïcs et les clercs. Une opposition, comme si nous n'étions pas tous d'abord des baptisés. L'Église est composée de baptiser avec des personnes qui ont des fonctions différentes dans l'Église. Mais il n'y en a pas qui sont au-dessus les uns des autres. C'est quelque chose de très important, vous voyez. 60 ans après la mort de Jésus, voilà déjà qu'on essaie de définir l'Église et de dire, mais c'est d'abord le peuple de Dieu. Et vous savez qu'au Concile Vatican II, en 1962-1965, les textes préparatifs du concile, pour que les évêques puissent les amender et puis voter, eh bien, il y avait deux textes, un sur l'Église, la hiérarchie, et un autre sur la pastorale, sur la mission. Eh bien, les évêques ont refusé cela, et ils ont préféré ne faire qu'un seul texte, Lumen Gentium, voilà, la lumière des peuples, et le premier chapitre, c'est pas la hiérarchie, c'est pas les évêques, les prêtres, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, dans lequel il y a des fonctions différentes. Alors, ça c'était très important, je crois qu'on a encore besoin aujourd'hui de se le rappeler. Et en ce qui concerne les chefs de la communauté, Clément explique clairement la doctrine et la succession apostolique. Alors, les normes qui la régissent découlent en ultime analyse de Dieu. Le Père envoie Jésus-Christ, qui à son tour a envoyé les apôtres, puis ceux-ci ont envoyé les premiers chefs des communautés et ils ont établi d'autres hommes dignes pour leur succéder. Tout procède donc de façon ordonnée à la volonté de Dieu. À travers ces paroles, avec ces phrases, saint Clément souligne que l'Église possède une structure sacramentelle et non pas une structure politique. Alors, saint Clément va après ça élargir sa lettre. Au lendemain de la persécution, les chrétiens étaient bien conscients que les persécutions allaient se poursuivre et que Clément leur rappelle qu'il ne faut pas cesser de prier pour les autorités, même qui les persécutent. Le motif est avant tout d'ordre christologique. Il faut prier pour les persécuteurs, comme le fit Jésus sur la croix. Mais cette prière contient également un enseignement qui guide au fil des siècles l'attitude des chrétiens à l'égard de la politique et de l'État. En priant pour les autorités, Clément reconnaît la légitimité des institutions politiques dans l'ordre établi par Dieu, mais dans le même temps, il manifeste la préoccupation que les autorités soient dociles à Dieu et exercent le pouvoir que Dieu leur a donné dans la paix et la mansuétude avec tous les hommes. César n'est pas tout, dit Clément. Une autre souveraineté apparaît dont l'origine et l'essence ne sont pas de ce monde, mais d'en haut. C'est celle de la vérité, à laquelle revient également le droit d'être écouté par l'État. Et là, je trouve que quelquefois, dans nos églises, la prière universelle est souvent trop universelle et pas suffisamment concrète. Vous voyez, il faut que ceux qui font les prières universelles, eh bien, parlent un petit peu de la vie d'aujourd'hui dans le quartier où ils sont. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes, les difficultés? Et puis, prions pour cela. Prions aussi pour ceux qui va bien et pour ceux qui se donnent du mal, très concrètement. Il y a des autorités, il y en a partout. Bien sûr, on peut toujours prier pour la paix dans le monde, mais cette paix, eh bien, c'est chacun de nous qui la faisons. C'est chacun de nous qui travaillons les uns avec les autres, mais selon notre façon de vivre et notre souci de justice, d'écoute des autres, etc. Voilà. Alors, le pape Clément, vraiment le premier pape qui a commencé à exercer le primat de l'autorité de Pierre pour toute l'Église. Nous prions pour Clément, mais nous prions aussi pour notre pape François. À demain.